sports divergent. Le sport d'ici, venu d'ailleurs, en 30 minutes chrono. Alors, tout d'abord, puisqu'il s'agit d'une première, et je dirais même plus, une grande première, nous allons faire une émission en zéro pour présenter la dite émission. Sauf erreur de ma part, il s'agit bien d'une première car ce sujet n'a jamais été abordé et a toujours été absent des grilles de cette radio Divergence, depuis toujours. Alors, Sport Diverge se propose de regarder le sport, mais avec un regard évidemment un peu reculé, divergent, dirais-je ici. Normal, puisque cette émission sera hebdomadaire et sera diffusée en exclusivité sur Divergence FM tous les samedis entre 19h30 et 20h. Cette émission sera divisée en rubriques et comportera généralement une interview d'un acteur local de la vie sportive de l'agglomération montpellier-rennes, voire héraultaise, ou et la présentation du sport dans lequel il ou elle évolue. Et j'essaierai de vous faire découvrir des sports pas forcément très médiatiques. Il n'en manque pas sur notre territoire. Montpellier et sa région sont en pointe dans tellement de domaines sportifs qu'il me faudra de nombreuses émissions pour faire un tour d'horizon de la diversité. Ah tiens, diversité, puisque le mot est prononcé, nous parlerons souvent aussi du sport au féminin. Souvent, vous savez, relayé en deuxième ou en troisième division dans les émissions sportives. Pour le numéro zéro, ce sera sans invité. L'émission commencera par une chronique sur le sport et ses dérives, intitulée « La chronique de la baballe carrée », en référence au sport roi qui a tendance à l'image de la société de marcher sur la tête et d'être déconnecté de la réalité. Mais ce ne sera pas que du football dont il s'agira. Et bien avant, pour la première, eh ben écoutez, on va faire une petite pause musicale tout d'abord. Chronique de la baballe carrée. Bah, transfert, millions, déraison, coutume. Ouf, 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 la saison estivale du mercato vient de se terminer. Ouf, vraiment. Les transferts nous réservent chaque année une compétition avant la compétition. Qui c'est le plus fort? Qui va attirer les stars en persuadant un concurrent de lui céder un joueur? C'est qui a le plus de pognon à jeter à la tête de notre société en crise? Les amateurs de sport semblent souvent fascinés par cette gabegie insolente et amorale. Nous allons revenir rapidement sur les transferts du football en cette année. Mais ne croyez pas que seul ce sport en est friand. Disons que, en Europe, c'est le plus voyant et les sommes qui sont englouties donnent le vertige. Mais les rugbymen commencent aussi à ressembler aux manchots, les handballeurs se défendent un peu, le cyclisme aussi, et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le hockey sur glace, le basketball, le baseball et le football, mais le vrai, le football américain, pour le ridicule soccer. Et dans ces matières-là, ils n'hésitent pas à sortir les dollars aussi. Cette année, en Europe, le mercato, le marché pour le dire en français, a explosé tous les records et a connu aussi quelques scènes tragiques comiques où les bras de fer se sont engagés entre dirigeants, joueurs, conseillers. Alors je vais remercier le quotidien L'Équipe pour quelques chiffres et certains commentaires qui vont suivre. Alors le mercato valait cette année 2 milliards d'euros. Des économistes ont analysé le marché estival des transferts, qui conclut donc il y a quelques jours. Voici les quatre leçons à retenir. D'abord, ce fut un record de dépenses. Le foot européen est engagé dans une spirale inflationniste. Selon le Centre international d'études du sport, les clubs des cinq plus grands championnats européens ont dépensé exactement 2139 milliards d'euros en transferts cet été. Ça laisse un peu rêveur. Il s'agit sans doute de la valeur la plus élevée dans l'histoire du football. Cette somme ne correspond pas à la richesse globale générée par le marché des transferts, mais au cumul des sommes payées par les clubs. Car quand un club reçoit de l'argent lors d'un transfert, il le réinvestit pour acheter des joueurs à son tour. C'est un serpent qui se mord la queue, si vous préférez. À ce jeu, la première ligue, le championnat anglais, domine tous les débats. 719,2 millions d'euros déboursés, soit 33% du total des dépenses. Rien d'étonnant pour Christophe Lepetit, économiste au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Tous les droits TV de la première ligne viennent d'être renouvelés à la hausse. Là aussi, c'est un délire, hein, 3,7 milliards d'euros pour la période 2013-2016, rien que ça. Les clubs anglais peuvent compter sur des ressources importantes pour les années à venir. Il y a donc une Europe un peu à deux vitesses. Au-delà de ses spécialités anglaises, les transferts les plus onéreux de cet été 2013 ne concernent qu'une élite du sport européen. Seuls quelques grands clubs peuvent aujourd'hui attirer les meilleurs joueurs du monde. Alors, bien sûr, il y a eu le record absolu. On aurait pu croire que c'était dans le rugby, puisqu'il était gallois. Mais Gareth Bale est un Anglais, enfin, c'est un Gallois, mais qui joue dans le championnat d'Angleterre de Tottenham. Il vient d'être acheté par le Real Madrid pour la modique somme de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, est-ce que ça a un sens par rapport à un joueur ? Est-ce qu'un joueur tout seul peut coûter plus que plusieurs équipes, par exemple ? Est-ce que c'est raisonnable tout ça ? Et puis, je vous rappelle que nous sommes en Espagne. En Espagne, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en crise. Une crise financière terrible, une crise économique, avec un chômage terrible. Mais on peut dépenser 100 milliards. Pourtant, ce qui est ça qui est encore plus extraordinaire, le Real Madrid est un club extrêmement endetté. Alors comment font-ils pour dépenser tout cet argent ? Eh bien, il paraît que ce sont les banques encore qui prêtent de l'argent. Je croyais que les banques étaient en banqueroute en Espagne, mais elles prêtent de l'argent pour investir des sommes faramineuses. Et c'est surtout une sorte de combat, celui, comme je vous le disais au début de cette petite chronique, qui dépensera le plus. Alors, dans un autre genre, la dérive du fric et moins en engendre des comportements. Alors, il y a des comportements, vous savez, de gamins mal conseillés par des potes ou des parents, et ils sont propulsés conseillers, et sont conseillés surtout pour augmenter le nombre de zéros sur l'échec. Et cette année, nous avons droit au cas Thauvin. Alors, je n'ai rien contre ce joueur, c'est un jeune homme, je crois qu'il n'a même pas 19 ans, et je résume l'histoire pour vous donner la morale de ces mercatos. Ce jeune homme donc jouait à Bastia, c'était l'année dernière. Et puis l'hiver dernier, lors du mercato d'hiver, ah oui, je sais, c'est une sorte d'aberration, mais ça existe. Ça consiste à modifier les effectifs en cours de saison. Alors ça, on m'expliquera comment que le championnat peut être régulier si au milieu de l'année on peut racheter d'autres joueurs. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Au milieu de l'année, le club de Lille va acheter le joueur de Bastia pour 3 millions d'euros. Ce qui est une somme, vous avez en compris, assez raisonnable vu les sommes pratiquées. Et quand il l'a acheté, il le prête. Parce que l'acheteur veut garder son joueur jusqu'à la fin de saison. Ça se pratique comme ça, c'est comme ça. Bon, c'est un achat anticipé, si vous voulez dire, pour ne pas se faire doubler pendant l'été. Or, justement, le fameux Tovin ne jouera jamais à Lille. Parce que maintenant, il est marseillais. Ce club-là, eh ben, il l'a racheté à Lille pour ne pas rentrer dans les détails, mais avec un bonus quand même phénoménal. Lille, sur l'affaire qu'il avait acheté 3 millions, devrait recevoir 15 millions. Alors lui, le joueur, il a fait la grève à l'entraînement pour pouvoir voir son salaire tripler. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est un peu décalé, le footo, c'est délirant, le marché des transferts, ça n'a pas de sens. Alors le président de Lille, qui est Michel Seydoux, vous savez, celui qui donne dans le cinéma aussi, hein, vous connaissez certainement la famille Seydoux, lui, pour le dossier Tovin, il dit que... Il n'a pas voulu céder, il a été vraiment correct, il a toujours dit non, moi je ne vendrai pas mon joueur. Et puis tout à coup, il a été peut-être moins correct parce qu'il l'a quand même vendu. Donc vous voyez, la morale de cette histoire, c'est qu'il n'y en a pas. Et pour Bell, c'est donc bien 100 millions. Le président de Tottenham, qui s'appelle Daniel Levy, a accepté de signer une clause de confidentialité pour garder le secret. Parce qu'en plus... En plus de dépenser ces sommes, on ne veut pas dire exactement combien ça coûte. Bon, vous voyez, c'est un délire. Alors voilà ma première petite chronique de la balle al carré qui se termine, mais il y en aura d'autres sur des sujets toujours un peu épineux. On va faire une deuxième pause musicale.
It was a full moon in the middle of June, in the summer of 59. I was young and cool and shot a bad game of pool and hustled all the chumps I could find. Well, now they call me sport, cause I pushed the bar short and loved all the women to death. I partied hard and packed a mean rod and could knock you out with a right or a left. I'd learned to shoot pool, playing hooky from school. At the tender age of 9, and by the time I was 11, I could pad roll 7 and down me a whole quart of wine. I was making it a point to smoke me a joint at least once during the course of a day, and I was snorting scab while other kids played tag, and my elders went to church to pray. I pitched pennies and downed bennies and played the horses at the track. I wanted cards against tremendous odds, and my favorite game was blackjack. I seldom lost, cause my game was so boss. I mean, I had my shit down pat, and I was running through bitches like rags to riches, cause that's where my heart was at. Yes, I was a down stud's dream, a hustler supreme. There wasn't no game that I couldn't play. And if I caught a dude cheating, I would give him a beating, and I might even blow him away.
Supporter, quel métier ? Alors dans cette émission, j'aborderai aussi la dure vie du supporter. Ah, il dépense souvent, lui, tout son argent qu'il a du mal à gagner en travaillant ou en touchant les allocations chômage, pour suivre son équipe. Mais je ne m'intéresserai pas qu'à ce type de supporter. Vous savez, les clochers existent encore avec leurs fidèles qui suivent l'équipe du coin, toujours. Je n'oublierai pas non plus, vous savez, tous ces bénévoles. Ils sont légions à faire tourner la machine sportive, associative, loin des professionnels, très loin. Ce sont des passionnés qui portent des valeurs, hein, des valeurs morales, éducatives, et ils méritent certainement qu'on s'y attarde. On essaiera donc d'en rencontrer quelques-uns pendant cette année. Quand il y aura un invité, je lui demanderai aussi de pratiquer un lancer de CD. hein, pour qu'il illustre sa présence d'une musique qu'il aime ou qui correspond à son sport. Mais comme aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, nous n'avons pas à voir ce lancer de CD. Et puis enfin, on terminera en se plongeant dans des résultats de nos valeureux surdoués. Vous savez, ceux qui nous représentent, les surdoués de Montpellier et de la région, avec un choix de sports très divers. Il se peut que l'on traîne aussi un peu d'actualité qui a marqué la semaine, et ce que je vais faire aujourd'hui aussi avec une nouvelle affaire, mais nous en parlerons tout à l'heure. On va revenir un peu sur le mercato, les transferts, le côté économique. Alors, selon Christophe Le Petit, économiste spécialiste des transferts, il estime que le transfert de Gareth Bale témoigne d'un système qui tente de maintenir une bulle spéculative, un peu comme dans l'immobilier, si vous voulez. Les montants du transfert de Gareth Bale et de la cause libératoire de Cristiano Ronaldo, son compagnon du Real Madrid, posent-ils un problème ? Clairement, on est dans la surenchère complètement hors du marché et déconnectée de toute réalité économique. Bale ne vaut pas ce prix, ni Ronaldo d'ailleurs. Si ce dernier était transféré la saison prochaine, disons au PSG, puisque vous savez que maintenant le Paris Saint-Germain, c'est le Qatari Football Club, il ne le serait pas pour 1 milliard. Les clubs essaient de maintenir une bulle spéculative autour de ces opérations. Quels sont les critères pour fixer ces montants délirants ? Des critères plus ou moins objectifs existent, comme la performance sportive, bien sûr, la durée du contrat du joueur ou sa valeur commerciale. On calcule combien le joueur pourrait rapporter en vente de maillots, en abonnements supplémentaires. Mais dans le cas de Gareth Bale, même en amortissant son transfert sur plusieurs années de contrat, je ne vois pas comment il pourrait rapporter de l'argent. C'est impossible. La plus-value à la revente pour le Real, après un transfert d'une telle montant, me paraît très difficile. Dans 10 ans ou dans 5 ans, ils ne vont pas vendre Bale 150 millions. Donc pourquoi ? Et c'est là que tout devient un peu bizarre. Le montant du transfert de Bale au Real Madrid ne correspond donc à aucune logique qui encadre généralement les transactions pendant les mercatos. Parce que l'international gallois est une star de la Première Ligue, ce qui situe un autre marché que celui des autres joueurs, parce qu'il est courtisé par l'un des cinq plus grands clubs de l'Europe, ce qui ajoute encore sa valeur, mais aussi parce que son club d'origine, Tottenham, n'est pas forcément vendeur. Dans ce cas, le principe de base d'offre et de demande qui régit la majorité des transferts, comme dans n'importe quel système économique, est balayé par des considérations médiatico-sportivo-publicitaires. Comment les clubs déterminent-ils les prix qu'ils sont disposés à offrir ? Il y a d'abord des paramètres communs à tous les joueurs. Ils regardent son âge, son poste, il a un attaquant coûte plus cher en général qu'un défenseur, ses statistiques, son palmarès, le club où il évolue et le nombre d'années de contrat qu'il lui reste. Puis il y a des critères plus subjectifs comme le ressenti que les dirigeants ont sur le joueur, sa valeur actuelle mais aussi son potentiel futur. Ceci s'est expliqué par Bruno Satin, qui est agent de joueur. Par exemple, lorsque le Paris Saint-Germain s'offre Marco Verratti à l'été 2012 pour un peu plus de 11 millions d'euros, ce n'est pas le prix du joueur qu'il a acheté, puisqu'il n'avait que 18 ans, il jouait en Serie B à Pescara en Italie, donc il ne valait pas 11 millions d'euros, mais c'est sur l'avenir qu'ils ont parié. Et là, en l'occurrence, ils ne se sont pas trompés, puisque ce joueur maintenant vaut certainement plus que 11 millions. Et ainsi de suite. Si Lorient n'a pas obtenu les 7 millions qu'il demandait pour Jérémy Aliadière, c'est parce que les éventuels clubs intéressés ont trouvé ce prix trop élevé pour un joueur de 31 ans, qui a souvent été blessé, qui n'a plus que 2 ans de contrat, etc. On a proposé 5. Donc vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Mais surtout, c'est toujours pareil. Ce sont les riches qui, eux, s'en fichent. Ils dépensent sans compter. L'an dernier, pour parler encore du Paris Saint-Germain, du Qatari Football Club, ils ont dépensé 42,5 millions pour acheter un joueur de Palerme qui s'appelle Javier Pastore. Est-ce qu'il valait vraiment ça ? Certainement pas, surtout en comparaison avec quand on voit certains autres joueurs qui sont payés dans les mêmes prix. Le second avait un vécu européen plus étoffé, comme l'Argentin qui avait signé à Manchester City pour le même prix à peu près. Mais Paris voulait devenir Paris. Donc on n'hésite pas à dispenser. Et puis quand on a la chance d'avoir derrière soi une fortune qui est le pays, un pays entier, le Qatar, parce que soyons clairs, c'est l'émir du Qatar qui est le véritable président de Paris Saint-Germain, on dépense. Alors maintenant, nous, en France, On avait Paris Saint-Germain, on disait c'est incroyable, ils atteignent tout le monde. Et puis maintenant, nous voilà avec Monaco. Monaco, vous savez, les princesses, hein, vous connaissez tout ça. Et bien maintenant, Monaco, il a un prince russe qui dépense sans compter lui aussi. Alors cette année, ils ont fait exploser tous les records. Ils ont par exemple dépensé 60 millions d'euros pour Ramadael Falcao, qui est un joueur colombien qui jouait à Madrid, mais pas au Real, à l'Atlético, et qui donc rejoint Monaco, alors que Monaco vient juste d'accéder en Ligue 1, donc il ne participe pas aux Coupes d'Europe prestigieuses. Et donc il a mis le prix, parce que s'il n'avait pas mis ses 60 millions, bah, l'Atlético Madrid aurait dit non. Donc en fait, il y a une espèce de bulle spéculative, et puis il y a aussi des gens pas raisonnables. Pas raisonnables parce qu'ils ne sont pas raisonnables, ils n'ont pas besoin d'être raisonnables, ils ont plein d'argent. Donc c'est un peu leur danseuse, on va dire. Donc on a maintenant un président russe du côté du rocher qui dépense comme il veut. Alors, on va passer bientôt à la troisième partie de cette émission, c'est-à-dire on va donner quelques résultats, on va parler de choses et d'autres. Ça sera une. On va plonger dans des résultats, comme je disais tout à l'heure, de nos valeureux surdoués, avec un choix de différents sports. Et dans cette rubrique-là, il arrivera aussi de glisser quelques phrases. Vous savez, des phrases qui sont prononcées soit par des sportifs, soit par des dirigeants de sportifs, soit par des supporters ou simplement par des acteurs du monde du sport. Alors cette fois-ci, puisqu'il n'y a pas d'invité, c'est moi qui ai choisi la petite pause musicale. Oh, ça va pas être d'hier. Hein. On va écouter les frères Jacques avec ses sales rugby. Résultat de nos surdoués valeureux de l'aglo multivitaminé. Eh bien, puisqu'on parlait de rugby avec cette chanson de Clocher qui représente bien l'esprit du rugby dans les petits villages, on va passer quand même au résultat. Là, on est dans le top 14, on n'est pas. C'est autre chose. Là aussi, les transferts se font. Moins que dans le football, mais quand même. Alors, notre équipe de Montpellier, le MHR, qui a eu un début de saison un peu difficile après un premier match nul contre Toulon, ensuite une défaite difficile, et bien maintenant il s'est repris puisqu'il a été gagné à l'extérieur contre Bègles-Bordeaux. Alors, après 4 journées du top 14, championnat de plus en plus difficile où les équipes se sont renforcées de façon incroyable, on a l'impression d'assister au championnat du monde des clubs, tellement il y a de Néo-Zélandais, d'Australiens, de Sud-Africains, de Britanniques qui jouent dans nos équipes maintenant. Et j'en passe, il y a aussi les Argentins, bien sûr, les Italiens. Enfin bref, c'est un championnat tout à fait international. Montpellier est actuellement à la 5e place, à 3 points du leader Clermont-Ferrand. Donc, ben, bonne chance parce que bientôt, il y a un nouveau match qui se profile. Les rythmes de match dans les matchs de rugby sont devenus complètement délirants là aussi. Alors, un jour ou l'autre, il faudra parler peut-être de ces rythmes infernaux parce que je ne sais pas comment on peut faire 3 matchs de rugby dans une semaine. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse totalement. Enfin, c'est comme ça. Quelques résultats. Eh bien, figurez-vous que je vais citer des filles. Alors, Solène Durand, Sandy Toletti, Claire Lavoguez, j'espère que je n'accroche pas son nom, et Lindsay Thomas. Et ben, ces 4 jeunes filles sont membres de l'équipe de football de Montpellier et elles sont devenues championnes d'Europe avec l'équipe de France en battant l'Angleterre 2-0 il y a quelque temps. Alors vous voyez, il n'y a pas que les garçons qui tapent dans la baballe, il y a aussi les filles. Alors maintenant on va passer à autre chose, c'est une affaire. Ah, on n'a pas de chance. Parce que figurez-vous qu'à Montpellier, on a surtout été connu dans le sport pour le handball. Le MHB handball, c'était quand même la vitrine. C'était 10 fois champion de France, c'était une fois champion d'Europe des champions, toujours qualifié pour les Coupes d'Europe. C'était un peu la vitrine de la ville de Montpellier. Et puis, l'an dernier, on a sombré dans une sombre histoire, c'est le cas de dire, de paris truqués, de joueurs qui auraient parié à la mi-temps d'un match comme quoi leur équipe serait menée au score, ce qui a été le cas. Et on s'est enfoncé entre justice, sport, dérive du sport. Ces jeunes gens, ayant parié ou fait parier des proches de leur famille, l'instruction est toujours en cours, on ne sait pas exactement ce qui va passer. Donc la roue a tourné. Donc ben voilà, après cette affaire, on en a une deuxième qui vient d'arriver. Après l'affaire des paris suspects, la saison passée, l'élimination dimanche dernier, en Ligue des Champions face aux Polonais de Plock, le club de l'Hérault vient de prendre un nouveau coup sur la tête puissant. Le gendarme économique de la Ligue nationale de handball vient de déqualifier, on dit plus exactement, 4 joueurs de l'effectif par les nouveaux contrats, faute de garanties financières suffisantes. Les contrats donc de Sifer, Anne, Gunfred et Simonet n'ont pas été homologués alors que le club du président Rémi Lévy avait averti courant juillet et avait été mis en demeure d'apporter de nouvelles garanties. Alors on attend donc une élimination précoce en Ligue des Champions, pas de Ligue des Champions cette année, 4 joueurs non qualifiés, les paris. J'espère que Montpellier Handball sera fidèle à ce qu'il a toujours été. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Alors écoutez, je n'ai pas le temps de vous donner d'autres résultats. J'en aurai plein à vous donner la semaine prochaine certainement. Et puis on va se quitter avec le jingle de l'émission. J'espère que ça vous a tenté pour la prochaine fois. Diverge, le sport d'ici venu d'ailleurs en 30 minutes chrono.